Salut, c'est Steven Jambeau. Vous écoutez l'atelier des médias de RFI. On est ensemble pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous choisissez notre podcast. Les médias sont à la fois la cause et le symptôme de l'évolution politique actuelle aux États-Unis. C'est ce que l'on va voir avec mon invité qui est un spécialiste des médias conservateurs américains. On va parler des talk-shows radiophoniques, de Fox News, du site Breitbart ou encore de One American News, la petite chaîne qui soutient aveuglément Donald Trump, lequel se sert d'ailleurs de ses infox. Bonjour Sébastien Mohr.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en cultures et sociétés des États-Unis à l'Université de Lorraine, dans l'Est de la France, et membre du CREM, le Centre de Recherche sur les Médiations. Un de vos champs d'études, c'est le lien entre politique et médias aux États-Unis, plus précisément sur l'expression de la parole politique partisane dans les médias d'une part, et d'autre part l'influence des médias tels qu'ils sont constitués sur les contenus politiques. Avant de démarrer, j'aimerais que vous nous dressiez un état des lieux du paysage médiatique américain. En 2020, à quoi ressemblent les médias aux États-Unis ?
Alors aux États-Unis en ce moment on trouve une presse historique qui est la grande presse métropolitaine qui est produite au niveau régional mais qui est disponible au niveau national. Donc c'est la grande presse de référence comme le Washington Post, le New York Times, le Wall Street Journal et d'autres titres. Et puis il y a des, comme vous l'avez évoqué, des marchés de la presse au niveau local qui peinent effectivement à survivre puisque le modèle des médias d'information aux États-Unis est un modèle quasi exclusivement commercial. La crise du secteur des médias d'information et plus précisément de la presse frappe de plein fouet plus particulièrement la presse locale. Or, la presse locale est extrêmement importante à plusieurs titres parce que déjà ça permet aux communautés au niveau local de cultiver un sens d'appartenance. Et deuxièmement, c'est aussi des médias qui permettent de faire remonter dans les médias nationaux des questions qui sont pertinentes pour les gens en fonction de leurs états et de leur comté. Et c'est en partie pour cette raison, que le phénomène Trump est passé très en dessous du radar des médias nationaux, parce que justement il y avait plus ce lien entre le local et le national. Pour la presse, la grande presse de référence que j'ai évoquée tout à l'heure, il y a toute une transition qui est en train de se faire au numérique. Donc certains journaux sont parvenus à redynamiser leurs ventes en offrant des abonnements combinés avec des systèmes de murs payants, etc. Mais globalement, c'est quand même un milieu qui connaît une crise sans précédent et qui peine en fait à trouver un modèle pour se redynamiser, je dirais, de façon pérenne. Parce qu'il y a eu un sursaut des ventes de la presse sous l'effet de la présidence Trump, mais on peut faire l'hypothèse que c'est pas quelque chose qui va s'inscrire dans la durée et que si jamais Trump devait ne plus être président, on peut se poser la question de ces tirages qui pour l'instant permettent aux journaux de survivre, mais qui ne sont pas une garantie d'une survie sur le long terme.
Ces médias-là, ces gros médias, vous citiez le Washington Post, le New York Times, sont plutôt des médias progressistes, des médias mainstream. Ce sont ceux-là que Trump affuble du qualificatif « fake news ».
Oui, exactement. En fait, toute la stratégie de Trump, donc, qui puise dans une certaine tradition autoritaire, consiste à mettre en accusation toute forme de limite à son pouvoir et ces médias grand public donc qui sont pas forcément progressistes, qui sont en partie progressistes dans leurs éditoriaux et dans les colonnes qui laissent la parole à des commentateurs. On voit effectivement une certaine forme de progressisme, mais il y a aussi des voix conservatrices. Mais ce sont surtout en fait des journaux qui suivent ce qu'on appelle aux États-Unis la norme d'objectivité et qui est en fait une norme qui s'est affirmée tout au long des décennies à partir de la fin du 19e siècle et qui correspond en fait à des normes discursives et rhétoriques de l'élite éduquée. D'où l'amalgame entre donc ces médias-là et ce que certains médias conservateurs appellent la gauche ou donc les liberals, les progressistes. Mais en tout cas, l'attaque des médias grand public tels que donc le New York Times mais même la télévision hertzienne est partie intégrante de la stratégie de Trump. C'est pas quelque chose de tout à fait nouveau parce que ça s'est affirmé dans la stratégie des conservateurs à partir des années 60 et plus particulièrement à partir de la présidence de Nixon, parce que c'est Nixon et Spiro Agnew, son vice-président, qui ont inauguré cette stratégie de mettre systématiquement à profit les accusations contre les médias grand public comme outil politique. Mais avec Trump, on voit une amplification et une intensité de ce phénomène qui est tout à fait inédite, en fait.
Alors, on va y revenir. Les médias américains mainstream que l'on citait appliquent le code d'éthique du journalisme qui a été rédigé lors d'un congrès dans l'Oregon en 1922 qui impose sincérité, vérité, exactitude et impartialité au travail des journalistes. Il y avait également la Fairness Doctrine en 1949. Expliquez-nous ce que c'est que la Fairness Doctrine.
Alors, la Fairness Doctrine, c'est une espèce de dispositif réglementaire un petit peu compliqué parce que ça n'a jamais été inscrit dans la loi en tant que tel. C'est quelque chose qui prend corps, comme vous l'avez dit, à partir de 1949 sur la base d'un rapport qui est publié par la Federal Communications Commission, qui est un peu, si on veut grossir le trait ou le dire de façon un petit peu schématique, le CSA américain. Et donc, à partir de ce rapport-là, il y a également des décisions de la Cour suprême en 69 qui entérinent le contenu de ce rapport. Et en fait, en substance, la Fairness Doctrine impose aux entreprises de médias privés qui exploitent des ondes qui sont considérées comme des biens publics de traiter de sujets qui sont en rapport avec les préoccupations des citoyens au niveau local. Puisque si on prend l'exemple de la radio est un phénomène totalement local aux États-Unis. Il n'y a pas de radio nationale en tant que telle. Un même programme peut être distribué sur plusieurs radios, mais toute la radio est locale. Donc jusqu'en 87, qui est la date d'abrogation de la Fairness Doctrine par l'administration Reagan, Les radios se doivent donc de proposer des contenus qui sont en rapport avec les préoccupations des citoyens et en essayant de maintenir un niveau d'équilibre entre les points de vue sur ces questions-là. C'est aussi une réglementation qui est assortie de droits d'accès au plateau pendant les campagnes et de droits de suite lorsqu'une figure ou un courant est mise en cause ouvertement sur un support. On doit lui accorder jusqu'en 87 un droit de réponse sur ce même support. Et évidemment, ça a été considéré de plus en plus par les conservateurs, mais également par les acteurs du marché, puisque les grands réseaux hertziens se sont associés à la démarche d'abrogation. Cette doctrine a été considérée comme produisant en fait un effet négatif sur la vitalité du débat public, en fait.
C'est ça. Ça a été abrogé sous Reagan en 1987, et cela a fait en fait naître, cela a provoqué la création de quelque chose de très symptomatique et qui maintenant est vraiment caractéristique des médias conservateurs aux États-Unis. Ce sont les talk-shows radiophoniques. Expliquez-nous ce qu'est un talk-show radiophonique conservateur aux États-Unis.
Comme vous l'avez dit, c'est un format qui naît en fait de l'abrogation de la Fairness Doctrine, et c'est un format radiophonique qui s'affirme plus particulièrement à partir de l'été 88 sous l'égide d'un personnage qui est maintenant un personnage clé du mouvement conservateur et des médias conservateurs qui s'appelle Rush Limbaugh et qui jusqu'en 88 animait une émission au niveau local à Sacramento et qui du fait de l'abrogation de la Fairness Doctrine obtient un contrat de diffusion sur tout le territoire. Et donc tous les jours de la semaine depuis 88, quasiment sans interruption, on peut l'entendre 3 heures par jour commenter l'actualité politique, mais aussi l'actualité sociétale, économique, selon une approche, un angle très clairement conservateur. Ce que lui permet en fait l'abrogation de la Fairness Doctrine.
Donc en fait, c'est une émission qui n'est pas une émission de débat, c'est une émission de commentaire, vous l'avez dit.
Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, le libellé est un peu trompeur, et peut-être aussi pour un public francophone, on se représente les talk-shows comme des émissions de débat. Mais si on regarde le format tel qu'il a été inventé par Limbaugh, c'est pas du tout une émission de débat, puisque lui, par exemple, n'admet absolument aucun invité. En fait, ce sont des monologues improvisés sur la base de très souvent de. Au début, c'était des coupures de journaux. Maintenant, ce sont plutôt des dépêches de l'association Associated Press, d'articles publiés sur des sites internet d'information. Mais c'est du commentaire libre, un peu au fil de la pensée, et surtout sur un mode qui, en tout cas dans les débuts, la première décennie, mêle le commentaire, on va dire sérieux de l'actualité, avec une composante de divertissement. Et notamment de l'humour, donc il y a tout un registre qui est humoristique qui est développé au début des années 90. Et la grande réussite de Limbaugh, entre autres, c'est d'avoir rendu le conservatisme divertissant et d'avoir rendu cette idéologie qui était considérée comme une idéologie un peu sérieuse, un peu grave, comme possiblement humoristique et en tout cas accessible au plus grand nombre. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 80, en 88, quand Limbo démarre sur les ondes au niveau national, il n'y a pas de médias conservateurs accessibles au grand public. Il y a des publications hebdomadaires comme National Review, comme Human Events. Il y a aussi des journaux comme les pages éditoriales du Wall Street Journal ou le Chicago Tribune ou également le Washington Times. Mais ce sont des médias qui s'adressent à un public assez éduqué, en tout cas un public qui a fait des études et selon des, une approche, un style qui correspond à l'élite, un style policé. Limbo, lui, casse ses codes et rend accessible le conservatisme au plus grand nombre.
Et il y en a beaucoup des talk-shows radiophoniques comme celui-ci. Je veux dire, il y en a énormément et il bénéficie d'une grosse audience à travers les États-Unis.
Jusqu'à la fin des années 90, Limbo a le monopole sur le talk-show radiophonique conservateur et en fait sous l'effet d'une deuxième vague de déréglementation du secteur des médias qui intervient en 96, d'autres talk-shows apparaissent au tournant des années 2000, dont celui de Sean Hannity par exemple, ou celui de Laura Ingraham qui tous deux maintenant officient sur Fox. Pour ce qui est des taux d'audience, ce sont des taux d'audience qui sont inférieurs je dirais aux journaux du soir des chaînes hertziennes, mais qui sont tout à fait comparables au taux d'audience des talk-shows télévisés tels qu'on peut les voir sur Fox. Donc ce sont des médias qui sont des médias de niche, qui s'adressent à un public bien particulier, donc un public conservateur, extrêmement intéressé par l'actualité, avec un sentiment que le consensus culturel agit en leur défaveur. Mais pour un média de niche, ce sont des scores d'audience qui sont tout à fait considérables. Et donc, en fait, cette multiplicité, enfin, cette démultiplication des talk-shows, ça induit également une certaine radicalisation du genre. Puisque sous l'effet de la concurrence, en fait, chaque talk-show doit se ménager une niche thématique et une approche spécifique qui fait qu'en fait, il y a une espèce de surenchère entre les différents talk-shows qui provoque une radicalisation du propos et qui crée une réaction en chaîne, je dirais, puisque ça se réverbère, en fait, au-delà de la sphère des talk-shows, jusque dans la sphère politique, et notamment dans les arcanes du Parti républicain.
Alors, vous avez parlé de Fox News. Fox News, donc, c'est une chaîne de télévision qui a été créée en 1996. Expliquez-nous, justement, ce que l'on peut voir sur Fox News à longueur de journée. Est-ce qu'il y a un découpage particulier des journées de Fox News, ou est-ce que c'est une chaîne d'information en continu?
Alors, c'est une chaîne qui reprend d'une certaine façon le modèle de CNN avec des flashs d'information réguliers dans l'après-midi, un journal de fin d'après-midi à 6 heures, donc sur le modèle des journaux télévisés hertziens, puisqu'au départ, le pari de Fox était de parvenir à poser une approche conservatrice, plutôt populiste, sensationnaliste de l'actualité à la télévision, mais en adoptant ou en détournant ou en parodiant les codes du journalisme traditionnel. Donc il y a un journal de fin d'après-midi à 18h, mais ce qui fait l'identité de la chaîne, ce sont les talk-shows politiques qu'on peut regarder à partir de 20h, donc les talk-shows d'heure de pointe, qui eux définissent proprement la marque de Fox. Ce sont eux en fait qui créent l'identité de Fox, et ce sont d'ailleurs ces émissions-là qui enregistrent des scores d'audience, les scores d'audience les plus forts, des scores d'audience bien supérieurs au journal du soir.
Il y a également la matinale de Fox News qui marche vraiment bien, c'est Fox and Friends.
Exactement. Toute la grille de programme en fait est prise en étau entre la matinale Fox and Friends et les talk-shows politiques d'heure de pointe du soir, et qui sont bien évidemment des talk-shows qui sont acquis très largement à la cause de Trump et qui sont des soutiens quasi indéfectibles de Trump et de son administration.
Vous l'écriviez dans votre note pour l'IFRI que je mentionnais en propos introductif, la norme journalistique cardinale de Fox News, c'est l'indignation. Donc l'idée, en gros, c'est de susciter la colère des téléspectateurs pour faire des cartons d'audience, c'est bien cela ?
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, quand on parle de conservatisme sur Fox, et d'ailleurs c'est aussi valable pour les talk-shows radiophoniques, il faut se poser la question de quel conservatisme parle-t-on. Alors c'est effectivement une idéologie qui reprend un certain nombre des propriétés définitoires du conservatisme américain, donc notamment la nécessité d'une intervention limitée de l'État dans les affaires économiques et les affaires sociales, les valeurs morales, l'exceptionnalisme américain, le patriotisme, mais si vous voulez, qu'il les démultiplie et surtout qu'il les défend selon une approche sensationnaliste où, comme vous l'avez dit, donc le but c'est de créer absolument l'indignation, la colère, à grand renfort d'invectives, de diatribes, d'attaques ad hominem. Et dans le but de servir, j'ai envie de dire, une espèce de récit socle qui est que l'intérêt de la classe moyenne non éduquée, donc quand je dis non éduquée, c'est au sens américain, donc c'est qui n'a pas fait d'études supérieures, converge avec les intérêts de la finance et des classes supérieures. Et donc pour ça, on passe par l'évocation systématique des pères fondateurs de la République qui, dans leur grande sagesse, avaient mis en place des institutions qui répondaient justement à cette nécessité de tenir l'État central à distance et de parer à toute intrusion de l'État dans les affaires économiques et sociales et dans les affaires des citoyens. Donc toute forme d'interventionnisme de l'État fédéral est vue comme une forme d'intrusion indue et de tyrannie. Donc c'est comme ça qu'on arrive en fait sur Fox et sur les talk-shows radiophoniques conservateurs qu'on a évoqués avant, de faire la synthèse en fait, de faire converger des intérêts qui, au départ, a priori, sont antithétiques.
Il y a également d'autres chaînes de télévision, d'autres réseaux de télévision hertziens, et commençons par Sinclair Broadcasting Network.
Alors, donc, ce Sinclair Broadcasting Network est un réseau qui existe depuis de très nombreuses années, depuis le début des années 70, mais qui s'est vraiment implanté sur le territoire à partir du début des années 90, qui, par le biais d'accords plus ou moins licites d'ailleurs avec la FCC, donc la Federal Communications Commission, arrive à pouvoir s'implanter dans les marchés médiatiques locaux et de pouvoir implanter un nombre suffisant de chaînes et qui amorce un virage très clairement conservateur à partir de l'année 2000-2001. Surtout, je crois qu'on peut marquer ce tournant à partir des attaques contre le World Trade Center, donc du 11 septembre, qui est le moment à partir duquel le réseau se rallie derrière Bush et se fait vraiment le porte-voix de l'administration de Bush. C'est pas un réseau qui affiche des scores d'audience comparables à Fox. Je crois que le taux d'implantation est de 38%. Donc 38% des foyers américains ont dans leur bouquet hertzien une chaîne qui est soit totalement sous la coupe de Sinclair, soit qui diffuse certains de ses programmes. Mais ce qui est assez notable dans le phénomène du Sinclair Broadcasting, c'est qu'en fait, il y a un phénomène de cannibalisation des marchés locaux et de rachat de chaînes qui, au départ, ne sont pas des chaînes forcément conservatrices, mais qui, à cause de la crise des médias que j'ai évoquée précédemment, font faillite et donc sont rachetées par le réseau. Le réseau est totalement pro-Trump. À un moment donné, un des conseillers de Trump, Sébastien Gorka, y officiait, et c'est un réseau qui a fait de sa marque de fabrique le fait de chanter les louanges de Trump du soir au matin, en tout cas pour les stations qui sont possédées intégralement par le réseau. Donc en fait, si vous préférez, ce qui se passe, c'est que certaines chaînes qui avant proposaient une offre informationnelle diverse, variée, qui prenaient comme sujets principaux des questions locales, donc qui sont pertinentes pour les communautés au niveau local, maintenant doivent diffuser des programmes qui non seulement abordent l'actualité nationale, donc qui coupe en fait le citoyen de son environnement immédiat, mais un contenu également très nettement conservateur et à la gloire de Trump.
Alors il y a une petite chaîne actuellement dont le président Donald Trump parle énormément, c'est One American News, donc OAN, qui est encore plus à droite et encore plus trumpophile que Fox News ou le réseau Sinclair dont vous venez de parler. C'est une chaîne qui a été créée donc en 2013, elle est basée à San Diego en Californie, mais elle a des bureaux à Washington DC et à New York. Et dès le début, elle s'est présentée comme une alternative à Fox News, sauf qu'elle va encore plus loin. Qu'est-ce qui la démarque des autres ?
Ce qui la démarque des autres, c'est comme vous l'avez dit, c'est que autant sur Fox, on peut déceler, identifier des nuances très notables entre les différents programmes. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, entre les journaux d'information, les flashs d'information et les talk-shows du soir et la matinale de Fox, mais même entre les talk-shows, il y a certaines nuances qu'on ne retrouve absolument pas sur les programmes The One American News Network, qui est un réseau entièrement dédié, peut-être même de façon encore plus intense et systématique que Sinclair, à promouvoir l'agenda de la Maison-Blanche. Donc par exemple, dans les journaux d'information et dans les émissions de discussion politique, on fait la liste quotidienne des accomplissements de Trump, un peu, alors je vais grossir le trait, mais on n'est pas loin de ça, un peu à la manière de télévision nord-coréenne. En fait, moi, ça me fait penser à ça, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun recul, il n'y a aucune mise à distance, et c'est un réseau qui est entièrement acquis à Trump.
Qui du coup a ses entrées à la Maison-Blanche, c'est-à-dire qu'il y a maintenant une correspondante permanente d'OAN à la Maison-Blanche.
Exactement, il y a donc une correspondante à la Maison-Blanche qui est là en permanence. Également, un des anciens directeurs de campagne de Trump qui s'appelle Corey Lewandowski qui a été très longtemps contributeur sur la chaîne. Je crois qu'il ne l'est plus maintenant. Mais ce qui est remarquable en fait avec One, c'est que c'est une chaîne en fait qui offre, je dirais, une espèce de territoire de repli à Trump quand sa relation avec Fox connaît des tensions ou que Fox montre que peut-être ses animateurs se désolidarisent momentanément de la Maison Blanche, en tout cas ne relaient plus le message officiel. Quand ça se produit, Trump se rabat sur One. Ce qu'il faut savoir, c'est que la relation entre Trump et les médias conservateurs, donc quel qu'il soit, mais Fox au premier chef, c'est des relations de légitimation mutuelle. C'est-à-dire que Trump flatte Fox et attend en retour un soutien inconditionnel. Plus Fox est présent dans le discours de Trump, plus ses taux d'audience augmentent. Donc quand cette relation-là connaît des tensions, Trump se montre extrêmement critique, comme ça a été le cas au début de la crise du Covid. Et donc le moindre infléchissement dans le soutien que peut lui apporter la chaîne est vu comme une trahison. Et c'est là que One intervient, parce que One lui fournit un soutien indéfectible et inconditionnel, donc il peut se replier sur cette espèce d'espace, de territoire qui le valide dans ses positions. Il y a des rumeurs d'un rachat, ou en tout cas d'un investissement massif de la part de proches de Trump dans la chaîne One, de façon peut-être à mettre à créer une concurrence qui soit une concurrence réelle avec Fox, puisque One, en fait, est très peu diffusé, très peu accessible. Certains disent que c'est également une façon pour lui de peut-être préparer l'après 3 novembre, dans l'optique où il ne serait pas élu. Ce serait une façon pour lui d'avoir un forum entièrement acquis à sa cause.
Voilà, on va poursuivre sur ces relations-là, l'impact de ces médias sur Donald Trump et son administration et l'agenda de la Maison-Blanche qui se nourrissent de façon très très proche. Donc, vous le disiez, Donald Trump, c'est un spectateur fidèle de Fox News. D'ailleurs, il a recruté à la Maison-Blanche des collaborateurs venus de Fox News. Ce qui est assez surprenant, et on l'a constaté à plusieurs reprises, c'est que Trump va souvent s'appuyer sur ce qu'il a entendu au réveil dans l'émission Fox and Friends, par exemple, la matinale, pour tweeter et appuyer son propos lors de meetings ou de points presse. Le président légitime reprend à son compte des infos douteuses et ce qui est intéressant là aussi, c'est que Fox parfois va se servir de ces infos que Trump aura reprises en partie sur son antenne pour faire encore une fois grossir son audience.
Oui, c'est ce que je décrivais tout à l'heure comme un système en fait de légitimation mutuelle. Beaucoup des idées ou des contenus qui sont relayés par Trump dans ses meetings proviennent directement de ce qu'il a entendu le matin sur Fox and Friends ou le soir sur Hannity ou sur Tucker Carlson. Donc ce qui est totalement inédit, c'est que traditionnellement, l'occupant de la Maison Blanche, surtout quand il est républicain, se sert des médias pour avancer son ordre du jour et pour le légitimer. Or là, la réceptivité de Trump à Fox est telle que c'est Fox, bien souvent, qui se sert du président pour légitimer des contenus souvent pas tout à fait justes, un peu erronés ou des fois clairement fabriqués, voire essaye d'injecter dans la conversation et dans l'écosystème non seulement des médias conservateurs mais aussi des médias grand public, des contenus qui émergent en fait à la marge, très très à la marge de cet écosystème et qui des fois même vient des contenus pardon qui viennent de sites conspirationnistes et de sites affiliés au milieu de la suprématie blanche, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait caractéristique. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Trump, en fait, si vous connaissez le succès médiatique, c'est pour lui un gage de fiabilité. Donc une émission qui connaît le succès ne peut relayer que des contenus qui sont fiables, en tout cas qui rentrent dans le récit dont il est porteur. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait inédit dans les rapports entre le Parti républicain, ou en tout cas les élites républicaines, et la chaîne Fox.
Donc le président, son administration et ses médias sont en boucle dans un processus de renforcement mutuel. Ils se nourrissent, en fait.
Exactement. Je crois qu'on peut même parler, eu égard au système de porte tournante entre Fox et la Maison-Blanche, d'une relation qui est totalement intégrée. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de la nébuleuse, de la galaxie des médias conservateurs, tout converge vers Trump. Et la seule différence, c'est le degré d'intégration de ces médias dans les opérations de la Maison-Blanche. Ce qui n'a jamais existé auparavant. Parce que si on revient un tout petit peu en arrière ou de quelques décennies, dans les années 90, il y a des relations symbiotiques entre les talk-shows et l'élite républicaine. Donc chacun trouve son compte dans la relation à certains moments, particulièrement quand le Parti républicain est dans la minorité et que les démocrates ont tout pouvoir. Donc là, il y a une position de contestation et un tandem entre les talk-shows radiophoniques conservateurs et les élites républicaines. Mais ce sont des liens qui, à des moments, connaissent des relâchements. En tout cas, il n'y a pas une synchronisation des agendas. Là, ce qu'on voit, c'est une synchronisation qui est quasi parfaite, et avec des gens qui, comme on l'a souligné, travaillent à la Maison-Blanche, puis à Fox, ou ont travaillé à Fox et viennent travailler à la Maison-Blanche sur la simple base de leur succès médiatique.
Ce que je voulais qu'on évoque aussi ensemble avec vous, c'est la question de tous ces sites conservateurs en ligne et leurs relais, puisque les visions les plus à droite, ou ce qu'on appelle même alt-right, droite alternative, radicale, se trouvent souvent en ligne avec des sites comme Breitbart ou comme Drudge Report. Ces sites-là, quand sont-ils apparus? Et expliquez-nous de la façon dont ils nourrissent les médias télévisuels et radiophoniques américains conservateurs.
Ce sont deux médias d'information, en tout cas qui relaient des contenus informationnels en ligne. Drudge Report est apparu en 95, donc dans les tout débuts de l'Internet. Et c'est donc un agrégateur d'informations qui a connu un essor au moment de l'affaire Lewinsky, donc en 98. Drudge a joué un rôle tout à fait clé dans le fait de légitimer certains contenus sur l'affaire Lewinsky. Pour ce qui est de Breitbart, c'est une décennie plus tard, donc en 2007. Et donc Breitbart relaie une idéologie qui est empreinte, non seulement, enfin qui est très clairement conservatrice, mais qui est aussi empreinte d'une certaine xénophobie un peu implicite, d'ailleurs pas toujours implicite. L'effet de Breitbart sur Fox, eh bien, c'est le fait que à partir de l'été 2016, son rédacteur en chef, Bill Shine, passe à Fox et qui provoque, donc, ou en tout cas est à l'initiative du ralliement de la chaîne Fox à Trump. Au départ, Rupert Murdoch est un peu dubitatif, un peu méfiant par rapport à Trump, et il y a un soutien qui est plutôt timide, pas sur les talk shows qui, eux, sont déjà derrière Trump, mais plutôt dans les journaux d'information. Tout simplement, en fait, Breitbart fournit une partie du contenu de ces talk shows politiques du soir. Donc il y a des informations, des contenus qui migrent de Breitbart sur Fox par le biais de ces talk shows.
Parlons maintenant de Trump et de sa réélection, de son désir de réélection en tout cas. Dans votre note pour l'IFRI, vous écriviez que Donald Trump peut difficilement se passer du soutien des médias conservateurs s'il veut assurer sa survie politique. Est-ce toujours le cas ?
Je pense, oui, qu'on peut dire que sa survie politique, elle dépend des médias dans leur ensemble, et je pourrais y revenir plus tard, mais en premier chef, des médias conservateurs, puisqu'en fait, je vais refaire un retour en arrière. Dans les années 90, les publics des talk-shows radiophoniques conservateurs et l'électorat républicain étaient un peu différents. Donc, il n'y avait pas une adéquation stricte entre les gens qui votaient pour le président républicain, qui soutenait l'administration, et le public de ces émissions-là. Parce que souvent, le public est plus à droite, peut-être un peu plus radical que l'électorat républicain mainstream, on va dire. Ce qui se passe à l'heure actuelle avec Trump, c'est qu'il n'y a plus de différence entre les publics de ces médias-là et l'électorat. C'est-à-dire que ces publics sont son électorat. Ce qui est un phénomène qui est amplifié par le fait que Trump étant une figure médiatique, il envisage son électorat comme le public d'un média politique. Donc il a besoin de ces médias conservateurs, alors que ce soit Fox ou les talk shows ou One, tout simplement parce que c'est un président qui a été élu, c'est un président en fait minoritaire, c'est-à-dire qu'il a gagné une majorité de grands électeurs au collège électoral, mais qui n'a pas gagné le vote populaire. Donc il a besoin d'un public acquis à sa cause et qui va voter, qui soit mobilisé, qui soit dans l'indignation et qui soit porté par cette indignation pour le soutenir au moment du vote. Donc il a besoin que ces gens-là continuent à le soutenir et à cultiver cette relation avec le public. Je dirais qu'il a aussi besoin des médias grand public, parce qu'en fait, c'est une présidence qui a assis sa légitimité par le biais des médias avant tout, et il a non seulement besoin d'être soutenu par les médias conservateurs, mais il a besoin aussi d'être présent dans les médias grand public. En fait, il ne faut pas voir le rapport de Trump aux médias seulement Twitter et les médias conservateurs, mais aussi, on va dire, la façon dont le discours qu'il tient dans les médias conservateurs et par Twitter se réverbère et crée du scandale, crée du spectacle dans les médias grand public, donc les chaînes hertziennes et puis CNN également. C'est quelqu'un qui existe comme ça, en fait, de cette façon-là. Et donc le spectacle médiatique lui est nécessaire pour asseoir sa légitimité et rester au centre de la discussion, je dirais.
Et on voit une polarisation politique actuellement aux États-Unis avec des médias mainstream qui n'y échappent pas et qui parfois, peut-être trop, ont fait de l'anti-Trumpisme primaire dont le président s'est lui-même nourri.
Oui, alors, je ne sais pas si on peut... C'est une question effectivement qui est très épineuse parce que est-ce que les médias grand public, étant donné les normes qu'ils suivent, donc on a évoqué tout à l'heure la norme d'objectivité et puis ce code d'éthique donc qui existe depuis 1922. Est-ce que sur la base de ces normes-là, est-ce que les médias grand public peuvent tenir autre chose qu'un discours critique? Ça, c'est la première question auquel j'ai pas la réponse. Et effectivement, c'est un des grands débats non seulement chez les commentateurs des médias, mais également chez les universitaires qui travaillent sur le journalisme. C'est quid de l'efficacité de ces normes journalistiques quand on est face à une figure autoritaire telle que Trump qui justement exploite les failles systémiques du journalisme américain et du modèle médiatique. Le deuxième point, c'est que Trump a assuré sa légitimité précisément parce qu'il a bénéficié de tant d'antennes et de centimètres carrés de journal en des proportions qui sont bien supérieures à ce dont a bénéficié Hillary Clinton pendant la campagne, par exemple. Ça, la recherche sur les médias et les gens qui s'intéressent à la communication politique l'ont mis en évidence de façon très nette. Jamais au cours de la campagne, Hillary Clinton bénéficie d'une couverture médiatique qui soit comparable à celle de Trump. Donc c'est, à mon avis, il faut nuancer ce point de vue-là. Trump n'a pas été élu en dépit des médias grand public, mais grâce aux médias grand public qu'il a su exploiter de manière extrêmement habile, notamment parce qu'il y a ces normes qui font que dès que quelqu'un prend la parole, dès qu'un candidat à la présidentielle prend la parole, on est obligé de relayer son propos. Et surtout, cette norme d'objectivité, en fait, elle a été, au fur et à mesure des décennies, redéfinie comme l'équilibre strict des points de vue. Et donc ça a été le piège dans lequel ont été pris les journalistes. C'est-à-dire que chaque fois que Trump faisait une déclaration incendiaire, ou qu'il rompait une norme, ou qu'il avait une déclaration qui était, par exemple, insultante, la presse grand public était systématiquement contrainte ou se contraignait à proposer une information de même nature sur Hillary Clinton. Donc il y a cette espèce de fausse équivalence systématique qui s'est mise en place entre les deux. Et c'est ce qu'on appelle en anglais donc les false equivalences, les fausses équivalences entre un article négatif sur Trump qui doit systématiquement être équilibré par un article négatif sur Hillary Clinton. C'est ce qui a fait que, entre autres, on a vu perdurer cette histoire des emails du serveur que Hillary Clinton, le serveur personnel qu'elle a utilisé quand elle était au Département d'État, l'affaire de Benghazi dont pourtant elle avait été blanchie. Tout ça, c'est resté dans la discussion et au cœur du débat public parce que justement, la norme d'objectivité implique cet équilibre des points de vue.
Merci Sébastien Mort. Je rappelle que vous êtes maître de conférences en culture et société des États-Unis à l'Université de Lorraine, dans l'Est de la France, et membre du CREM, le Centre de recherche sur les médiations. À bientôt.
Merci.
L'atelier des médias.
C'est la fin de cette émission. Si vous l'avez attrapée au vol à la radio, sachez que vous pouvez la réécouter dès maintenant et en version longue en podcast. Simon de Creuse était comme chaque semaine à la réalisation. Je vous invite à réécouter nos derniers podcasts. La semaine dernière, je recevais le sociologue Antonio Casilli pour discuter de ce qu'ont fait les plateformes durant la crise du coronavirus, montrant les limites de la société du tout numérique. Une semaine plus tôt, avec André Gunther, enseignant-chercheur à l'EHESS, on a analysé la vidéo de la mort de George Floyd, des images terribles à l'origine de la vague de protestations actuelle aux États-Unis. La semaine prochaine, je recevrai Cyril Vanier, qui présente une tranche d'information quotidienne sur CNN International. Il nous expliquera comment fonctionne cette chaîne d'information qui vient de fêter ses 40 ans et nous permettra sans doute de comprendre comment elle se positionne face à Donald Trump, qui la qualifie souvent de fake news. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine donc pour un nouveau numéro de l'atelier des médias.